France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Un Grenelle contre les violences faites aux femmes s'ouvre aujourd'hui en France. Il doit pendant 3 mois réunir plusieurs ministres, intérieur, justice, santé, éducation. Les associations qui vont y participer demandent que de vrais moyens soient déployés. Au moins 500 millions d'euros contre le million promis par la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Elles veulent aussi des mesures et des résultats rapides, notamment la mise à disponibilité d'au moins 2000 places d'hébergement pour les femmes qui fuient leur domicile et donc les violences. Car effectivement, il y a urgence. 101 féminicides ont eu lieu dans le pays depuis le début de l'année, quasiment un tous les 2 jours. Hier, une femme de 92 ans est morte après avoir été frappée par son mari de 94 ans. Le mouvement de grève des personnels des urgences se renforce. La moitié des services publics ont rejoint le mouvement lancé il y a 5 mois. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui recevra leurs représentants la semaine prochaine, a déjà annoncé quelques mesures hier. Les infirmiers des urgences pourront réaliser des actes pour lesquels ils ne sont pas habitués actuellement, comme les points de suture ou la prescription de radio. Une filière spéciale sera également mise en place pour hospitaliser les personnes âgées sans passer par les urgences. L'actualité à l'étranger à présent et cette journée sans doute décisive pour l'avenir du Brexit outre-Manche. Une motion sera débattue à partir d'aujourd'hui au Parlement britannique contre le Premier ministre Boris Johnson. L'opposition pourrait pour cela s'allier à quelques députés conservateurs. Boris Johnson prévient, il convoquera des élections législatives anticipées le 14 octobre si le Parlement bloque le Brexit. Et puis en Afghanistan, un attentat à Kaboul hier a fait au moins 5 morts. Attaque revendiquée par les talibans alors qu'un accord venait pourtant d'être trouvé 2 heures plus tôt avec les Américains. Washington s'engage notamment à retirer ses forces de 5 bases militaires d'Afghanistan. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr.
Viva l'Orchestra. Participez à l'orchestre et au cœur des grands amateurs de Radio France. Pour la première fois, Viva l'Orchestra ouvre ses portes aux chanteurs comme aux instrumentistes pour tous de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France, préparez-vous à jouer et à chanter sur la scène de l'Auditorium de Radio France. Inscrivez-vous entre le 2 septembre et le 13 octobre sur maisondelaradio.fr. Viva l'Orchestra!
Il est 6h03 et vous écoutez France Culture. Comme tous les jours à cette heure-ci, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle d'une exposition à ne pas rater, c'est jusqu'au 28 octobre, L'homme qui pleure de Yann Pimming, c'est au musée des Beaux-Arts de Dijon, un des plus beaux musées de France, je dirais même du monde, récemment restauré et établi dans l'ancien palais des ducs et des états de Bourgogne. Et on en parle ce matin avec le peintre franco-chinois qui a bien voulu venir jusqu'à Paris pour nous en parler, et Franck Gautreau qui est le commissaire de l'exposition.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Yann Pimming.
Bonjour.
Bonjour Franck Gautreau.
Bonjour.
Alors L'homme qui pleure, le titre de l'exposition qui comporte une 50aine d'œuvres, renvoie aux amis, aux proches disparus, autant de portraits, grand format, pinceau large. S'il fallait parler du style de Yann Pimming, Franck Gautreau.
C'est un style. Vous avez cité et parlé de ces outils, des pinceaux larges, qui effectivement utilise abondamment, quel que soit le format, je dirais, parce que même les très petits formats sont faits aussi avec des pinceaux assez larges. Et que l'outil détermine presque le style, d'une certaine façon. L'outil, plus le pinceau est large, plus il a besoin de gestes amples et ronds, mais aussi parfois une attaque très brutale de la toile, et dans la matière de la peinture. Et donc le style, si on peut le qualifier, mais juste à l'instant, en attendant de venir dans le studio avec Yann Peming, on parlait et il me disait que depuis 15 ans, sa peinture a beaucoup évolué. Elle a évolué depuis le début, depuis les années 80, quand il arrive en France, en 1980, jusqu'à aujourd'hui. Et que cette exposition témoigne aussi de toutes les différents aspects picturaux et comment la peinture existe et dit quand il prépare une toile, il commence par fixer le sujet, représenter le sujet dont il va être question, et après il fait la peinture. Comme si l'image arrivait en premier, et après la peinture vient en deuxième. Mais c'est fait en même temps, parce que c'est fait avec la peinture. Il ne fait pas avec un fusain pour préparer le sujet, si vous voulez. Donc il y a ce côté très expressif, mais l'expressivité de la touche est aussi dépendante du sujet et de la façon de traiter ce sujet.
Alors là, en l'occurrence, il y a plusieurs sujets dans cette exposition.
Et il y a, je dirais, plus qu'un sujet, il y a une attitude et une façon de penser la peinture aujourd'hui, où la peinture doit charrier et véhiculer des émotions. Et d'où le titre « L'homme qui pleure », qui renvoie à la fois, comme vous le disiez, aux disparitions d'amis ou de parents proches, comme sa mère et d'autres personnes qui sont décédées dans les dernières années, mais aussi au drame du monde. Et l'homme qui pleure, c'est aussi l'artiste qui pleure le monde qui va mal et qui aussi prend en charge et on assume la responsabilité d'une certaine façon.
Et s'il fallait parler de cette exposition à l'intérieur des Beaux-Arts, parce qu'il y a effectivement toute l'œuvre de Yann Peming, mais il y a aussi ce dialogue avec la collection du musée de Dijon.
Alors c'était, ça allait de soi, c'est-à-dire que d'emblée, quand le maire de Dijon a demandé à Yann Peming de participer à la réouverture du musée en faisant une exposition personnelle, tout de suite, la réaction de l'artiste était de dire, d'une part, j'interviendrai dans les salles d'exposition temporaire, mais aussi dans la collection. Parce que, pas seulement par un point de vue qui pourrait être considéré comme mégalomaniaque, de vouloir se mesurer au chef-d'œuvre du passé, mais de dire aussi, mon travail, c'est aussi un travail avec et dans l'histoire de l'art. Donc il n'y a aucune raison.
Et en dialogue, du coup.
Et en dialogue avec les chefs-d'œuvre du musée, que vous avez qualifié très, très généreusement de très beau musée, et un des plus beaux musées de France, effectivement. Et donc il y a matière à établir ce dialogue, si vous voulez.
Yann Peming, ce lieu, c'est un lieu très important pour vous, puisque Dijon représente peut-être encore pour vous cette porte d'entrée. Puisque quand vous arrivez en France en 1980, vous allez à Dijon, vous faites vos études aux Beaux-Arts de Dijon.
Oui, c'est un hasard qui m'a amené à Dijon. Donc je restais très attaché à cette ville-là. Je fais mes études là-bas, j'ai mon atelier là-bas. Je pense que c'est une ville qui est stratégiquement était propice. C'est une ville moyenne. Il y a une activité artistique avec le consortium. Ça veut dire qu'un artiste, en restant dans une ville comme ça, on peut voir des expositions. Tous les artistes qui sont venus exposer à Dijon, que je l'ai rencontré, voilà, je ne suis pas isolé. Voilà, en plus qu'avec un dialogue très constructif avec les gens du consortium.
Alors c'est quoi le consortium Franck Gautreau, vous qui êtes le co-directeur, le fondateur du consortium de Dijon?
C'est un mot trouvé déjà. Le consortium, au départ, ça s'appelle le coin du miroir, qui est aussi un autre mot trouvé, qui est un lieu dit à Dijon en fait. Le coin du miroir est une histoire totalement égoïste de gens qui, dans une géographie qui est différente, il n'y a pas de TGV, c'est en 1977 qu'on crée ça. Donc pour aller à Paris, ça met 3 heures et demie. On est des post-étudiants, je dirais, et on a envie de voir des œuvres, et plutôt que d'aller les voir sur place, de dire, on va les faire venir chez nous. Donc c'est l'idée, c'est aussi une vieille idée des années 70, c'est vivre et travailler au pays, si vous voulez, cette histoire-là, et de dire, finalement, on va se donner les moyens, qui sont très peu existants et très modestes à l'époque, pour faire venir des artistes et travailler, faire des expositions, et leur donner les moyens de faire apparaître des œuvres nouvelles. Donc c'est ça l'idée du consortium, et je disais c'est un nom trouvé parce que à partir de 1982, on prend un nouvel espace qui s'appelle le consortium, qui était un magasin qui existait, et il y avait un Léon qui disait oui, c'est ça, une coopérative d'achat, je ne sais quoi, et ça s'appelait le consortium. Il y avait un néon très joli qu'on a gardé, on a gardé le néon, on a gardé le nom.
Quand on m'a invité que pour l'exposition que le musée des Beaux-Arts à Dijon, je veux que Franck Gautreau soit assumé le commissariat. Parce qu'avec Franck, j'ai un long dialogue. Ça veut dire que pendant très longtemps, il a déjà fait plusieurs expositions de moi, que je connais Franck, tout ça, avec lui, que pour moi, c'est beaucoup plus facile. En plus, il habite à côté de chez moi, il peut venir à me voir, tout est construit.
Donc il y a des toiles qui ont été faites spécialement pour cette exposition, Yann Pimming. Dans l'ensemble, on est plutôt dans des sujets très graves, hein, c'est-à-dire les personnes décédées, les amis, votre mère décédée que vous représentez, le décès de votre père auparavant qui est là. Il y a aussi toute la violence du monde contemporain, hein, que ce soit... les attentats du World Trade Center qui sont représentés jusqu'à Fukushima, les catastrophes aussi nucléaires. Tout est assez sombre finalement.
C'est comme les gens qui allumaient les radios, les télévisions à 20h quand c'est le bon sujet qu'on ne parle pas. On d'abord traité les sujets sombres. Donc c'est catastrophe. 11 septembre, je l'ai vu en direct par la télé. Pour moi, c'est une sorte de paysage contemporain. Voilà, au lieu de faire un larbre, au lieu de faire une budine ordinaire, que je fais le budine en feu. Voilà, et moi, j'ai envie d'exprimer une sorte de l'inquiétude. Voilà, aussi pour moi. Quand je vois et mes copains qui se paraissent, donc, et moi, ça me fait... Ça me fait très mal. Donc je dis, oui, un jour ou l'autre, c'est moi, tout ça, pourquoi, lui, pourquoi.
La mort est très présente. Les animaux aussi sont très présents dans votre exposition L'homme qui pleure, Yann Pimming.
Oui, parce que la mort est très présente, parce que quand on est né, on est toujours confondu la vie et la mort. C'est un sujet éternel. Voilà, n'importe quel homme qui sort, il est là, il faut traiter ça, n'importe quel animal aussi.
Réveil culturel. Toufik Hakem.
Autour de l'exposition L'homme qui pleure de Yann Pimming, l'artiste peintre franco-chinois est avec nous ce matin, accompagné du commissaire de l'exposition, Franck Gautreau. Il y a quelque chose qui est permanent dans le travail de Yann Pimming.
Oui, ce qu'il disait, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une chose qui compte. Et il dit aussi une phrase
l'obsession de la mort aussi.
Que j'adore, qui dit « La peinture, c'est pas une caresse ». Et ça qualifie tellement bien son travail, à la fois dans la façon dont il a de l'exécuter, et le mot exécuter aussi assez fort, et que la peinture, l'art, c'est pas une caresse, c'est pas de l'entertainment, c'est pas tout ça, c'est une chose grave qui est pas forcément une chose dramatique et terrible et insupportable et sombre et tout ça, mais ça fait partie des choses. Et son travail, ce sont des allers-retours perpétuels entre sa biographie et l'état du monde. Comment un artiste peut à la fois rendre compte de sa propre histoire et l'histoire de ses proches, vraiment très proches, et aussi l'histoire du monde. Et comment ce dialogue et ces allers-retours peuvent s'exprimer dans une exposition. Alors avec des moyens, et vous avez parlé des animaux qui ont une place extrêmement importante dans son travail, et c'est peut-être un aspect de son œuvre qui n'est pas très très connu. Il y a eu des expositions où il y avait des toiles avec des chiens, des crocodiles, des tigres, des oiseaux. Et là, on a construit dans chaque salle des micro-récits qui s'articulent avec une toile de grand format en général, qui définit un sujet, qui définit une ambiance, et des contrepoints qui sont parfois des représentations animales. Vous avez cité la pièce qui est sur Fukushima, et elle est encadrée par deux petites œuvres qui représentent des chiens, et des chiens qui hurlent à la mort, et qui hurlent non seulement à la mort, mais qui hurlent face aux humains en disant fuck off, dégagez, cassez-vous les humains, c'est vous qui merdouillez, qui avez salopé le monde d'une certaine façon, et confié à ces animaux le rôle du témoin du cœur dans la tragédie grecque, quelque chose qui dit quelque chose que l'homme ne peut pas dire d'une certaine façon.
La tragédie grecque est effectivement présente dans votre univers pictural, Yann Pimming, avec ces hommes inquiets que vous peignez, les hommes inquiets, des femmes voilées, d'illustres inconnus qui côtoient quelques célébrités devenues des icônes. Vous avez déjà représenté le pape, Michael Jackson, là c'est Che Guevara. Il y a aussi une pièce qui est consacrée à ce que vous dites, les Game of Power, c'est-à-dire
les jeux de pouvoir.
Les jeux de pouvoir, c'est-à-dire où on retrouve Trump, Poutine, Bachar al-Assad, le roi d'Arabie, le dictateur nord-coréen. Ces gens-là qui représentent le pouvoir, vous les représentez d'une manière assez sévère.
Ça, c'est au début d'une grande série. Je pense que la peinture que je veux continuer jusqu'à la fin de ma vie, je veux rajouter. Alors, par exemple, à partir de ce moment-là, que le suivant portrait, je veux retourner à la Deuxième Guerre mondiale, entre l'actualité aujourd'hui et du passé. Après, re-actualité, repasser par le passé. Je suis en train d'imaginer comment je peux construire une œuvre sans fin. Par exemple, je veux peindre le type qui est l'archer, le bombe nucléaire au Japon. Je veux peindre aussi le chancelier, premier ministre anglais à l'époque, le Hitler, Staline, voilà, l'empereur du Japon. Voilà, ça veut dire la Deuxième Guerre mondiale, que c'est la figure incontournable.
En traitant, j'allais dire, les bons et les mauvais de la même manière?
L'histoire a toujours écrit par le vainqueur. Voilà, donc, et moi je fais une constatation, il faut jamais oublier et dépasser. C'est pas un travail très scientifique non plus, hein. C'est vraiment un sentiment perso, voilà, que ça m'intéresse, voilà, que mettre les figures côte à côte, voilà, être ensemble, voilà, donc aussi pour comprendre pourquoi ils sont là, entre le vainqueur et vaincu.
Faut-il décrypter le choix des personnalités par Yann Pimming?
Pour l'instant, il y a cinq tableaux qui sont faits, et dans l'ordre d'apparition, je veux dire, sur les murs du musée, c'est Trump, c'est Bachar al-Assad, Poutine, Kim Jong-un et Mohamed bin Salman. Le traitement est pas exactement le même pour chacun d'entre eux. Le cadrage non plus. Par exemple, le premier qui est Trump, il est cadré comme si la tête était coupée et posée sur une table. Coupée comme ça au ras du cou.
Et c'est très beau.
Et c'est assez beau. Et ça, finalement, ça donne une...
Ce qui est déroutant, on peut le dire.
C'est totalement déroutant. Et en même temps, c'est totalement la bonne façon de capturer. Et c'est aussi l'art de la peinture. C'est-à-dire, par exemple, l'exposition est introduite par une représentation du 11 septembre. Et le 11 septembre, on sait tous ce qui s'est passé, on sait tous comment ça a fini. Et il a choisi d'arrêter, je dirais, son pinceau au moment où, après le premier avion s'encastre dans la première tour.
Et on voit arriver le deuxième.
On voit arriver le deuxième avion. Et tout le monde sait, il n'y a à peu près personne au monde qui ignore la suite de l'histoire. Et simplement, il a choisi ce moment-là, qui est un moment à la fois pictural, c'est-à-dire que la fumée, les flammes qui sortent de la première tour des Twin Towers, c'est un moment aussi de peinture, c'est-à-dire c'est une peinture très gestuelle comme ça et tout ça. Et c'est l'image choisie et aussi le cadrage. C'est comme le cadrage de comment on cadre un portrait et comment on cadre un moment de l'histoire.
Et puis vous jouez aussi avec des icônes populaires. Quand vous décidez, Ian Pemming, de peindre Bruce Lee, Michael Jackson, Che Guevara, faut-il chercher dans vos œuvres, Ian Pemming, un positionnement idéologique, un sentiment vis-à-vis de ce que vous représentez? Je rappelle que vous êtes né à Shanghai, vous avez commencé à faire de la peinture de propagande dans la Chine-Pop.
Ouais.
Aujourd'hui, pour vous, la peinture, c'est une manière d'exprimer des convictions, de vous poser des questions, de jouer avec les images de notre monde contemporain?
Oui, je pense qu'à l'époque, c'est le service. Quand je fais la peinture de propagande en Chine, à l'époque, c'est pour le service d'un parti. Voilà, aujourd'hui, que toutes les peintures que je fais, c'est pour moi. Et vraiment très différent. Voilà, je exprime. Des fois, je exprime une manière avec une conviction. Des fois, je exprime une conviction qui est un peu mitigée. Ça veut dire que je suis ouvert à traiter tout le sujet. Je n'ai pas envie de me prisonnier.
Qu'est-ce que vous utilisez dans votre peinture?
C'est son peinture à l'huile. Voilà, tout est le plus classique possible. Voilà, j'ai assez de pot, tout est préparé, voilà, je sors le tube, je sors le pot, voilà, je peins.
Mais Franck Gautreau disait qu'il y avait d'abord le dessin, même le dessin c'est à la peinture.
Oui, tout c'est à la peinture.
Vous travaillez à Dijon dans un atelier, vous avez beaucoup de monde qui travaille pour vous, Ian Pemming?
Pour la peinture, je suis tout seul, mais sinon que j'ai une staff de gens, huit personnes.
Ils font quoi pour vous ces huit personnes?
Il est l'administrateur, juridique, comptabilité, il est jardinier, il est assistant de manutention, il est le traité de l'ordinateur, il est le chef de projet. Voilà, donc, par exemple, je sais pas, que si je veux changer une peinture, il fait tellement grande, tout seul, je ne bouge pas. Deux ou trois personnes, ils viennent, ils me changent la peinture. Et quand il y a des transports, emballage, tout ça.
Il y a autre chose dans votre exposition, c'est le dialogue avec la collection du Musée des Beaux-Arts de Dijon. Par exemple, L'homme qui pleure renvoie aussi à des œuvres, aux pleurants, puisque vous avez 9 aquarelles qui répondent justement à des œuvres exposées au musée.
Oui, parce que si on fait un titre de l'exposition, le pleurant, quand on traduit... Le pleurant, qu'est-ce que ça veut dire? En traduire en langue courante, c'est l'homme qui pleure. Ça est devenu immédiatement beaucoup plus universel. L'homme qui pleure, il vient de pleurant.
Mais en ce moment, vous le faites aussi à Ornan, vous dialoguez avec Courbet, si j'ose dire, en reprenant des toiles, à votre manière, bien sûr. Ian Pemming, cette manière de revisiter l'art occidental, pour vous, c'est... Ça a une grande partie dans votre vie artistique?
Je pense que, par exemple, au musée de Courbet à Renan, c'est l'exposition qui s'appelle Ian Pemming face à Gustave Courbet. Courbet racontait son histoire. Et moi, j'ai raconté le mien. Parce que je ne peux pas dans sa peau. Parce que c'est pas la même époque, c'est pas la même situation géopolitique, climatique, tout ça. Je l'aime beaucoup de travailler de Gustave Courbet quand ça suis arrivé en France, que je l'ai vu en vrai, que quand j'étais en Chine, je l'ai vu toujours de choses dont de revues noir et blanc, tout ça. Mais, par exemple, Courbet, il a fait le portrait de sa sœur et son père, qui est les deux œuvres qui est au Petit Palais. Je me disais que pour faire bicentenaire de Gustave Courbet, il faut faire venir sa sœur et son père à Ornans. Donc, on a demandé le Petit Palais. En dialoguant avec ces deux peintures, je fais le portrait de ma mère jeune, avant le mariage. Je fais mon grand-père. Je l'ai connu, donc j'ai un peu d'archives sur la famille. Voilà que je sors la documentation, j'ai essayé d'exprimer. Voilà, donc c'est pour ça que dans la salle de Ornans, il y a le portrait de Juliette et son père. Et en face, il y a le portrait de ma mère avec son père. Voilà, c'est un dialogue. Courbet, il peint sa famille, et moi je peins la mienne.
Comment a commencé votre carrière, votre passion pour la peinture, Yann Pimming?
Oh, je pense que c'est comme c'est tout le gamin qui est né dans des bidonvilles.
Vous êtes né dans des bidonvilles de Shanghai?
C'est pas vraiment une bidonville, mais que c'est comme, quoi. Donc c'est un quartier qui est très populaire, le gamin qui joue, la maison qui était mon petit, et le gamin qui sont tous dehors. Voilà, donc ça c'est comme le gamin, voilà, comme Zidane, il est devenu footballeur, et moi je suis devenu peintre. Voilà, ce sont des circonstances.
Avec le recul, vous les aimez, vos œuvres de propagande?
Oui, ça va, il faut toujours assumer. On peut pas effacer et le passé.
Et comment vous êtes venu en France? Pourquoi vous avez choisi la France?
Quand j'étais très jeune, j'ai pas mal de familles qui sont à l'étranger. Voilà, donc quand j'avais 15 ans, 14 ans, que toujours il y a des gens de la famille, ils viennent de l'autre ville pour aller à Shanghai, transit pour aller à Pékin, te faire le visa. Depuis très jeune âge, je sais, il faut demander un passeport, il faut avoir une raison de venir en France, soit un regroupement de la famille, soit que pour avoir un héritage et hériter de quelque chose, ou soit on fait l'étude. Voilà. Et moi, je choisis le plus simple, c'est l'étude. Voilà. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé un passeport, après je lui ai demandé un visa, au bout d'un an que j'ai réussi. Là, je suis venu en France.
Et là, directement le Louvre ou?
Mon oncle, il me l'amène directement à Montmartre. Parce que pour lui, c'est le seul endroit qu'il connaît, c'est le Montmartre. Le soir même, je suis arrivé, voilà. On est monté en haut, là.
Franck Cottereau disait que votre peinture a beaucoup évolué. Vous voyez, vous, l'évolution de votre travail, Yann Pimming?
Je pense qu'énormément. Énormément. Depuis que 40 ans, je n'ai pas arrêté de l'avancer et évoluer. Parce qu'un travail comme je fais, c'est quand je n'ai pas fait la vraie rétrospective, les gens qui me connaissent assez mal, parce que souvent des gens qui voient à mes expositions en petits morceaux, quoi. Souvent je fais le projet spécial, voilà. Donc je sais pas, j'ai une exposition, je fais un sujet. C'est pour ça que les gens, ils peuvent pas suivre 40 ans de mes expositions. Voilà, donc c'est pour ça que les Franck, ils connaissent bien parce qu'ils habitent à côté. Voilà, qu'on se voit assez souvent. Il vient de ton atelier, tout ça. Mais je pense
vous connaissez y compris cette période chinoise?
Non, je crois pas. J'ai peut-être vu deux, trois choses, deux, trois dessins et tout ça, mais pas tellement.
Je pense que c'est mon travail qui est pratiquement rien à voir avec un art chinois. Pour moi, la pictorialité, c'est un langage universel. Je veux au-delà de ça. C'est pour ça que je n'ai jamais revendiqué que ça soit chinois, que ça soit un artiste tout court. En Chine, on ne peut pas avoir double nationalité. Je suis acquis d'une nationalité française, voilà, je l'assume. Voilà, donc.
Vous vous sentez plus français ou plus dijonnais, Yann Pimming, pour terminer?
Oui, que je suis à Dijon, c'est vraiment incontournable. Voilà, je suis très à l'aise. Ah bah.
L'âme qui pleure, c'est jusqu'au 28 octobre dans ce beau musée de Dijon, le musée des Beaux-Arts. Merci beaucoup Yann Pimming d'être passé ce matin pour nous parler de votre œuvre et merci au commissaire de l'exposition de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés. Merci Franck Gautreau.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30, à suivre le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la chute de l'Empire américain. Pierre-Paul Daoust est chauffeur-livreur. Témoin d'un hold-up qui tourne mal, il se retrouve avec deux sacs bourrés de millions de dollars. Le pouvoir de l'argent va bousculer ses valeurs altruistes.
Vous savez, l'univers de l'argent est infiniment vaste.
La chute de l'Empire américain, un film de Denis Arcand, disponible en DVD et Blu-ray. Et pour la première fois, les trois films cultes du réalisateur, Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares et La chute de l'Empire américain, dans un coffret DVD. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les Américains vont-ils commencer leur retrait d'Afghanistan ? Un accord trouvé avec les talibans et présenté hier le prévoit, mais un attentat est déjà venu endeuiller Kaboul. Nous irons sur place dans un instant. Nous rejoindrons ensuite notre correspondant à Londres, où l'opposition prépare une motion contre Boris Johnson et la possibilité de sortir de l'Union européenne sans accord. Les débats débutent aujourd'hui au Parlement. Et puis un Grenelle contre les violences faites aux femmes est organisé par le gouvernement français. Alors qu'un 101e féminicide a été comptabilisé dans le pays. Présentation dans cette édition, présentation de ce Grenelle. L'accord sera-t-il viable ? À peine présenté en tout cas, un attentat a malgré tout été commis à Kaboul, faisant 16 morts et une centaine de blessés hier. Deux heures plus tôt, les Américains et les talibans s'étaient pourtant mis d'accord sur une sortie du conflit en Afghanistan. Les États-Unis se sont notamment engagés à retirer leurs forces de 5 bases militaires, Sonia Ghazali.
Plus de 5 000 soldats américains sur les 14 000 déployés quitteront le sol afghan dans les 20 semaines qui suivront la signature de l'accord. Le retrait des troupes se poursuivra de façon progressive à la condition que les talibans respectent leurs engagements, dont celui de combattre le terrorisme sur son sol. Le groupe d'insurgés s'engage ainsi à couper tout lien avec Al-Qaïda. C'est le contenu de l'accord de principe auquel sont parvenus talibans et américains réunis à Doha au Qatar pour le 9e round des discussions. Cela fait 10 mois que les deux parties sont engagées dans des négociations sans la présence d'aucun représentant du gouvernement afghan. Celui-ci a eu connaissance de l'accord de principe, a indiqué l'émissaire américain, qui affirme que des négociations intra-afghanes commenceront dès la signature de l'accord après validation du président américain. Celle-ci pourrait avoir lieu à Oslo, la capitale norvégienne. À Kaboul, le porte-parole d'Ashraf Ghani a déclaré qu'il était très difficile de faire confiance aux talibans. Quelques heures plus tard, la capitale afghane était secouée par une énorme explosion. Un camion-citerne de carburant sur lequel était posée une bombe a explosé près d'un complexe fortifié où résident des étrangers. Les envahisseurs et leurs mercenaires étaient visés, écrit l'un des porte-paroles des talibans sur son compte Twitter, en revendiquant l'attaque. Le complexe avait déjà été pris pour cible en janvier dernier. 4 personnes avaient été tuées, plus de 90 autres blessées. Avant cela, le complexe avait été attaqué en 2003, en 2012 et en 2014. Chaque attaque avait été revendiquée par les talibans.
Sonia Ghazali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. Le chef du Hezbollah libanais assure que son mouvement n'a plus de ligne rouge dans sa confrontation avec Israël. Il menace ainsi de frapper l'État hébreu en profondeur dans son territoire. Avant-hier, une attaque de missiles anti-char menée par ses combattants dans le nord d'Israël avait provoqué une réplique d'Israël, touchant cette fois le sud du Liban. Le Hezbollah a-t-il intérêt à une guerre contre Israël ? Voici la question que posera Julie Gacon dans les enjeux internationaux avec son invité. Ce sera à 6h45 tout à l'heure. Avant cela, tournons-nous vers Londres où les débats parlementaires reprennent aujourd'hui avec une motion débattue par les députés pour faire tomber le gouvernement de Boris Johnson. L'opposition veut empêcher que le Royaume-Uni ne sorte de l'Union européenne le 31 octobre sans accord. Pour répondre à ces députés, Boris Johnson menace de déclencher des élections législatives anticipées. Bref, les deux camps se font face, Antoine Gignot.
C'est une rentrée aux allures de bras de fer titanesque, avec d'un côté les travaillistes, les libéraux démocrates, les verts, les indépendantistes écossais, quelques élus sans étiquette. Ils veulent déposer ensemble un projet de loi pour empêcher le Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne sans aucun accord. De l'autre côté, Boris Johnson et les conservateurs eurosceptiques, eux, continuent de dire que le Brexit aura lieu le 31 octobre, quoi qu'il arrive, et ils menacent, s'ils sont mis en difficulté par l'opposition, de dissoudre le Parlement en déclenchant des législatives anticipées qui plongeraient le pays dans une nouvelle bataille politique. Le Premier ministre ne veut pas provoquer de nouvelles élections, explique sous couvert d'anonymat un responsable du gouvernement, mais tout dépendra, dit-il, du choix des députés. Une phrase aux allures de menace destinée aux élus conservateurs. Ils sont une quinzaine à s'opposer au gouvernement. Boris Johnson les a déjà prévenus. Tous ceux qui voteront contre l'équipe gouvernementale seront purement et simplement exclus du parti.
En Italie, la parole est aux militants. Le parti populiste des 5 étoiles demande à ses membres de soutenir la formation d'une coalition inédite avec le parti démocrate de centre-gauche. Les adhérents sont donc appelés à se prononcer sur Internet aujourd'hui par un vote. Les sympathisants du Parti démocrate, eux, ont déjà approuvé cette coalition à 69%. Le bilan est toujours provisoire. Aux Bahamas, l'ouragan Dorian a fait 5 morts, arrachant des toits et des lignes électriques, inondant des maisons. L'ouragan stagne pour le moment sur l'ouest de l'archipel. Il pourrait épargner une partie de la Floride aux États-Unis. Depuis le 1er janvier en France, 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Le dernier meurtre remonte à avant-hier dans le Tarn. Pour lutter contre ces violences faites aux femmes, le gouvernement lance aujourd'hui un Grenelle, un rendez-vous qui va durer 3 mois au total et qui regroupera plusieurs ministres et associations. Il se veut interdisciplinaire, Fiona Mogadam.
Il va y avoir 3 axes de travail. Prévenir, prendre en charge, punir. D'où la présence aujourd'hui non seulement du Premier ministre et de la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, mais aussi de la garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation ou encore de la ministre du Travail notamment, ainsi que de 80 responsables associatifs, policiers, magistrats, avocats ou encore agents publics. Une prise en charge de la lutte contre ces violences qui se veut globale, du point de vue des territoires également, car en parallèle, une centaine de grenelles locaux est organisée sous la houlette des préfets. Le gouvernement entend ainsi mener une action coordonnée. La suite du Grenelle s'articulera en 10 groupes de travail pour aboutir à des mesures le 25 novembre prochain, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais les premières mesures d'urgence seront annoncées dès aujourd'hui. La semaine dernière, Marlène Schiappa s'est déjà engagée à créer un fonds spécial contre les féminicides. 1 million d'euros distribué à des petites associations qui manquent de moyens. Une somme pour le moment bien loin des 500 à 1 milliard d'euros que réclament l'ensemble des associations de lutte contre les violences conjugales.
C'était Fiona Mogadam pour France Culture. L'Afghan d'une trentaine d'années soupçonné d'avoir tué samedi une personne et blessé 8 autres dans une attaque au couteau à Villeurbanne a été mis en examen. Il est accusé d'assassinat et tentative d'assassinat. Le juge des libertés et de la détention a été saisi en vue de son placement en détention provisoire. Et revoilà les 80 km/h à l'Assemblée nationale. Imposée sur les 400 000 km de routes secondaires en France, cette limitation de vitesse va finalement être assouplie. Les départements, en tout cas, pourront revenir à 90 km/h. Il faut pour cela une loi, la loi LOM, d'orientation des mobilités. Elle est en commission à l'Assemblée nationale depuis hier, avec donc un nouvel article. Les associations de sécurité routière le critiquent, mais c'était nécessaire selon Jean-Marc Zulesi, député de la majorité dans les Bouches-du-Rhône. Il s'en explique un an après la limitation de vitesse.
Alors il y a eu des bilans, le bilan est plutôt positif jusqu'à maintenant, sauf qu'il y a des endroits où effectivement il n'y a pas d'accident et qu'il y a peut-être matière à ce que la limitation de vitesse reste à 90 km/h. Face à cet argument-là, on donne cette liberté aujourd'hui d'assouplir la mesure des 80 km/h. Et donc, ce que nous proposons, ce que nous avons proposé, ce qui a été voté, c'est de laisser la liberté au président de conseil de département, mais aussi des maires, d'assouplir la mesure des 80 km/h en s'appuyant sur l'avis du conseil départemental de sécurité routière. Et ça permet, en fin de compte, d'argumenter le choix, in fine, du président du conseil de département ou alors du maire en question.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg, dont vous pouvez réécouter le dossier consacré aux 80 km/h. Il était diffusé hier soir dans le journal de 18h sur France Culture, journal disponible sur Internet. Les splendeurs de l'Égypte fascinent toujours autant le public français. Preuve en est, l'exposition la plus visitée du pays devient l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à la Grande Halle de la Villette. Prévue jusqu'au 22 septembre, elle a déjà rassemblé plus d'1 370 000 visiteurs. C'est 150 000 de plus qu'en 1967 au Petit Palais, Stéphane Capron.
Beaucoup de visiteurs s'y sont pris plusieurs mois à l'avance pour réserver leur ticket. La fréquentation est à la hauteur de l'événement en 1967. 50 pièces avaient été présentées au public. Il y en avait trois fois plus pour cette ultime exposition. Car c'est la dernière fois que ces trésors découverts en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter parcourent le monde avant de rester définitivement en Égypte. Et c'est pour Thierry Vincenti, le directeur général d'IMG France, l'organisateur de l'exposition, l'une des raisons de ce succès populaire.
Grâce au grand musée égyptien qui est en train d'être construit sur le plateau de Gizeh, face aux pyramides, il y a cette volonté de pouvoir effectivement accueillir l'ensemble de ces pièces à la fin de la tournée. Donc cette idée que c'est peut-être la dernière fois qu'on pouvait les voir en tournée. Donc je pense que ça a participé véritablement au succès incroyable. Il y a quand même une offre sur Paris d'exposition qui est exceptionnelle. On se disait, on espérait pouvoir atteindre le million, battre ce record et atteindre ce résultat, c'est juste exceptionnel.
Les expositions Toutankhamon version 2019 et 1967 battent à plat de couture les grandes rétrospectives de peinture, reléguant l'Expo Monet de 2010 au Grand Palais à la troisième place avec 913 000 visiteurs.
Toutankhamon à Paris, c'est donc jusqu'au 22 septembre. La météo, rapidement, de ce mardi, pour le micro, c'est assez simple. Le soleil va briller partout. 15 degrés à Rennes ce matin, 19 à Paris, 22 à Lyon, 28 degrés à Marseille dans la matinée. Allez, on remet le micro en place. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 sur France Culture. C'est l'heure de votre journal des idées. Et Jacques, c'était hier la rentrée scolaire et universitaire à Hong Kong. Mmh. Elle était boycottée par beaucoup dans le contexte de la contestation contre l'ingérence chinoise. Et les pressions de Pékin, Jacques, s'accentuent pour y mettre fin.
Oui, le ton est à l'offensive depuis quelques jours dans la presse officielle chinoise, résume Agnès Godu sur le site de Courrier International. Des personnalités nommément cités sont présentés comme responsables de la situation et vilipendés, tandis que tout participant aux violences est averti d'une justice sans faiblesse. L'agence officielle Xinhua a publié un texte virulent, annonçant que le jugement approche pour tous, qu'ils participent, fomentent, organisent ou mènent les émeutes à Hong Kong. Hier, des milliers d'étudiants se sont rassemblés donc à l'université en signe de soutien aux 5 revendications du mouvement de contestation. Comme le rappelle Florence de Changy dans Le Monde, il s'agit notamment du retrait total d'un projet de loi permettant les extraditions vers la Chine, déjà suspendue, d'une enquête indépendante sur les brutalités policières et de la désignation des dirigeants politique au suffrage universel. La correspondante à Hong Kong évoque les pressions et l'ingérence chinoise au sein des entreprises comme la compagnie aérienne Cathay Pacific. L'administration de l'aviation civile de Chine, qui n'est pourtant pas le régulateur officiel de Cathay, a en effet interdit que les employés de l'entreprise ayant participé ou soutenu le mouvement de contestation politique à Hong Kong soient à bord de vols qui auraient pour destination elle a interdit ceci, qu'il soit à bord de vols qui auraient pour destination la Chine ou même qui voleraient dans l'espace aérien chinois. Des employés ont été licenciés pour avoir soutenu le mouvement social et le directeur l'a payé de son poste. Du coup, les entrepreneurs marchent sur des œufs. Tout le monde est sur ses gardes de peur de se faire épingler par la Chine et de déclencher une campagne virale ingérable, confie l'un d'entre eux. L'économie de Hong Kong est en effet classée depuis des décennies comme la plus libre du monde, essentiellement du fait de la liberté de circulation des capitaux, des biens et des personnes, d'une fiscalité minimale et d'un gouvernement le moins interventionniste possible. Mais ce climat de liberté économique pourrait être affecté si les libertés de penser, de communiquer, d'échanger des idées étaient remises en cause, conclut la journaliste. Sur Mediapart, Margot Clément rappelle que ce territoire continue de représenter un maillon clé de la stratégie d'investissement à l'étranger des entreprises entreprises chinoises qui profitent de son système capitaliste pour s'aligner sur les standards internationaux. Aujourd'hui, le gouvernement de Hong Kong agite le spectre d'une grave crise économique due au mouvement de contestation, mais la grande perdante serait la Chine, car le petit territoire capitaliste reste un élément clé de ses investissements entrants et sortants. Comme le résume dans une note Alicia Garcia Herrero, économiste chez Natixis, Hong Kong est le centre offshore préféré des Chinois continentaux. En termes de levée de fonds, Hong Kong a accueilli 73% des IPO, des introductions en bourse à l'étranger des entreprises chinoises entre 2010 et 2018. Un rôle d'ailleurs officiellement reconnu par Pékin dans son projet de nouvelle route de la soie. Car c'est grâce à Hong Kong que la Chine a pu réaliser son ouverture aux marchés mondiaux à l'aube des années 1980. Du fait de la non-convertibilité de la monnaie chinoise, de nombreuses sociétés ont utilisé la bourse de Hong Kong pour lever des capitaux étrangers. À cause du mouvement de contestation, le secteur du tourisme est touché, avec une chute de 50% des réservations de groupes en juillet, et des mastodontes comme HSBC ou Standard Chartered ont chacun fait paraître la semaine dernière des pages de publicité dans des journaux locaux pour appeler à une résolution pacifique de la crise. C'est pourquoi Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong, estime dans Le Figaro que Pékin et Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, devraient accepter une vraie négociation avec les protestataires, ayant misé en vain sur un pourrissement de la situation par la radicalisation du mouvement qui aurait justifié une répression policière plus féroce. Il devrait entamer une véritable négociation entre le gouvernement local et le mouvement avec des concessions de part et d'autre. Même si Pékin reste sur ses positions et tente de faire croire que le mouvement est porté par des casseurs indépendantistes, alors qu'il reste soutenu par une majorité de Hongkongais inquiets de l'avenir politique. Pour Jean-Pierre Cabestan, les forces chinoises stationnées à la frontière ont pour seul but de faire monter la pression. La police locale a été dotée de moyens supplémentaires pour rétablir l'ordre. Elle multiplie par ailleurs les arrestations, plus de 900 depuis début juin, mais elle reste incapable de régler une crise qui est fondamentalement politique. Seule une solution politique et non policière ou militaire peut la résoudre. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, le Hezbollah a-t-il intérêt à une guerre contre Israël?
Oui, dans un discours retransmis à la télévision libanaise hier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a assuré que son mouvement était capable de frapper en profondeur, je le cite, le territoire d'Israël en cas d'attaque, tout en disant qu'une étape de la riposte était terminée. Alors quelle étape, quelle riposte? Bref, rappel des faits, il y a d'abord eu fin août cette frappe d'Israël en Syrie qui a tué deux membres du Hezbollah, puis ses drones atterrissent peu de temps après en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth. Il faut s'imaginer, c'est en pleine ville, tout près des locaux des médias du Hezbollah. Le mouvement chiite a riposté immédiatement par des missiles qui ont détruit un char de l'armée israélienne, c'était dimanche. Et pendant quelques jours, cette même armée israélienne a demandé à tous ceux qui vivent à 4 km à l'intérieur de la frontière libanaise de rester calfeutrés et d'ouvrir les abris anti-bombes. Bonjour Aurélie Daher.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et à Sciences Po. Vous avez écrit en 2014 au PUF le Hezbollah, mobilisation et pouvoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec vous, faisons d'abord un zoom sur cette frontière entre Israël et le Liban, dont on parle moins ces dernières années, qui paraissait plutôt calme depuis la fin de la deuxième guerre du Liban, depuis 2006. Or, on voit bien ces derniers jours que le Hezbollah n'avait pas perdu de vue son rôle de défense de la frontière, qui est en fait son rôle originel.
Tout à fait. En fait, vous avez tout à fait raison. On parle moins de cette frontière depuis quelques années parce qu'on se focalise davantage sur l'intervention du Hezbollah en Syrie et sur le transfert des tensions militaires, notamment que vous avez évoquées, entre Israël et le Hezbollah en Syrie. Mais la frontière entre le Liban et Israël reste une frontière contestée. Il ne faut pas oublier que donc en mai 2000, le Hezbollah a libéré le Liban Sud en mettant fin à 22 ans d'occupation israélienne et l'ONU a alors procédé au tracé d'une frontière qu'on a appelée la ligne bleue, supposé incarner une frontière définitive entre Israël et le Liban. Or, le gouvernement libanais, mais aussi d'autres gouvernements de la région, avaient déjà contesté ce tracé en disant que voilà, le tracé accordait indûment à Israël des portions du territoire libanais.
Avec des zones donc, que se disputent encore les deux pays, la région des fermes de Sheba, par exemple, qui est une zone très escarpée, très, très montagneuse, je ne sais pas si le terme est adapté.
Tout à fait.
Voilà, alors Israël aujourd'hui accuse le Hezbollah de fabriquer des missiles guidés de précision qui pourraient toucher des centres névralgiques en Israël. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Aurélie Daher, de façon sûre, de l'arsenal militaire du Hezbollah?
C'est la question à 10 millions d'euros.
Alors j'enlève le « de façon sûre », c'est ça?
Voilà. Il est très difficile, évidemment, d'avoir des informations fiables, à la fois sur le nombre de combattants du Hezbollah et sur son arsenal. Du point de vue du nombre de combattants, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, au cours de l'été 2000, donc quand on a eu cette grande guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah était capable de mettre quand même 5000 hommes au sol lors de la grande offensive terrestre israélienne. Donc les Israéliens, eux, avaient mis en face 40 000 hommes. On sait qu'il y avait grosso modo 1 500 hommes lors de la première bataille de Koussel en Syrie en 2013. Aujourd'hui, disons que les chiffres les plus raisonnables situent le nombre des combattants autour de 10 000, entre 10 et 15 000 hommes. Après, pour les capacités militaires, bon, elles se sont très nettement améliorées depuis 2006. Là, là-dessus, je pense que nous pouvons croire sur parole ce que disent les dirigeants du Hezbollah. Bon, déjà, on l'a vu, hein, ça a été observé. Ils ont des drones d'observation particulièrement efficaces. Ils ont mené un certain nombre de tests. Il y a quelques années, il y a quand même eu un drone du Hezbollah qui est resté dans l'espace aérien israélien pendant 45 minutes avant d'être repéré. Il y a aussi, ils ont des fusées à portée bien plus importante. En 2006, le maximum que les roquettes du Hezbollah avaient fait en territoire israélien étaient 75 kilomètres à peu près, 75 kilomètres de profondeur. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, parle de fusées qui pourraient frapper carrément le sud d'Israël.
Donc on ne sait pas précisément quel est le nombre de combattants aujourd'hui du Hezbollah, mais vous avez donné des chiffres assez précis, notamment sur ceux qui étaient engagés en 2013 dans la première offensive, disons, officielle du Hezbollah contre les rebelles syriens, donc aux côtés des troupes de Damas en Syrie en 2013. 1500 soldats, donc aujourd'hui suffisamment de troupes de toute façon et d'armes pour être à la fois à la frontière israélo-libanaise et en Syrie, mais aussi au Yémen, en Irak, où le Hezbollah a envoyé des conseillers militaires travailler avec des groupes chiites. En tout cas, ils sont très nombreux, ça c'est sûr.
Alors, après, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction en fonction des pays. En Irak, effectivement, et au Yémen, il semblerait que ce soit plutôt des consultants. Un peu de ce que font les Iraniens en Syrie. Ce ne sont pas eux qui sont, j'ai envie de dire, sur le territoire, sur le terrain, sur le champ de bataille à se battre. Hein. Ils pensent plutôt les stratégies militaires et puis ils forment les combattants locaux. En revanche, en Syrie, ce sont leurs hommes qui se battent sur les champs de bataille.
Avec toujours un soutien logistique de l'Iran, mais de quelle nature et de quel ordre? Est-ce que les liens sont toujours aussi forts qu'ils l'étaient à la création du Hezbollah, quand l'Iran voulait créer une force proprement chiite et anti-israélienne? Donc quel lien? Et le Hezbollah est-il une marionnette iranienne, comme on le lit ici et là, ou est-ce qu'il suit quand même des intérêts libanais?
Non, là, c'est un peu... on a dit beaucoup de choses sur le lien entre le Hezbollah et l'Iran. Ce lien, il a beaucoup évolué, évidemment, depuis la naissance du Hezbollah, donc au début des années 80. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que la guerre en Syrie a rétabli un certain équilibre entre le Hezbollah et l'Iran, a fait d'eux des partenaires plus que, on va dire, un État gouvernant et un groupe gouverné. Et ça a aussi remis en cause tout le fonctionnement du trio Iran-Syrie-Hezbollah, où il y avait une époque, notamment quand la Syrie avait une tutelle sur le Liban, où le Hezbollah était obligé de prendre en compte les desiderata du régime syrien. Aujourd'hui, le régime syrien, il est en situation de redevabilité vis-à-vis du Hezbollah et vis-à-vis de l'Iran. Ça met, j'ai envie de dire un peu hiérarchiquement, le Hezbollah et l'Iran en situation de force par rapport au régime syrien.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Hezbollah se bat et prend une place si importante dans la guerre en Syrie aux côtés des troupes de Bachar al-Assad, est-ce que ça veut dire que c'est pour protéger le Liban davantage qu'aujourd'hui les intérêts iraniens?
Il y a plusieurs raisons à l'intervention du Hezbollah en Syrie. Bien sûr, il y a le refus de voir chuter un régime ami aux mains d'un régime qui pourrait être moins ami, et notamment qui pourrait fournir un certain nombre d'informations secrètes, en tout cas tenues secrètes pour l'instant, et on va dire importante stratégique sur notamment comme l'arsenal du Hezbollah, les effectifs du Hezbollah à Israël. Ça, vraiment, le Hezbollah ne veut pas qu'il y ait transfert de ce genre d'informations. Et puis, évidemment, il y a toute la question de la protection, effectivement, d'une partie de la frontière libanaise avec la Syrie, derrière laquelle, frontière derrière laquelle vivent essentiellement des chiites et des chrétiens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans cette histoire, le Hezbollah reçoit le soutien de beaucoup de chrétiens au Liban qui estiment que l'armée libanaise n'a pas les moyens d'assurer leur protection contre les groupes djihadistes sunnites en provenance de Syrie.
Armée libanaise moins puissante et moins fournie en armes et peut-être moins riche aussi que le Hezbollah.
Surtout moins bien formée.
Et moins bien formée. Est-ce que le Hezbollah s'est nourri des conflits, notamment la guerre en Syrie, pour monter en puissance ou est-ce que ça l'a affaibli?
Alors, il se nourrit pas de conflit, parce que, en plus, faut pas oublier que l'essentiel des conflits auxquels il participe ou dans lesquels il est sollicité, en fait, sont des conflits qui lui sont imposés. En revanche, il est indéniable que la performance du Hezbollah sur sur les champs de bataille engrange un certain nombre de succès militaires, de victoires, qui, elle, oui, effectivement, participe au renforcement de sa popularité. Et la Syrie, finalement, a été une aubaine pour le Hezbollah, là où quand les choses ont commencé à se gâter et que le Hezbollah a fait savoir qu'il s'engageait en Syrie, nombreux ont été les analystes qui ont prédit que ce serait la fin du Hezbollah.
Sur cette frontière israélo-libanaise, est-ce que le Hezbollah a intérêt cette fois à se lancer dans une guerre? Est-ce qu'il en a les moyens? On a compris que oui, mais est-ce qu'il a intérêt politiquement?
Pas du tout, il n'a pas intérêt, j'ai envie de dire les Israéliens non plus. D'ailleurs, il est intéressant de bien comprendre ce que disent les responsables, à la fois du Hezbollah et les responsables israéliens. Le numéro 4 du parti, Mohamed Raab, il y a quelques jours, disait « Nous ne voulons pas de guerre, mais si vous nous cherchez, vous nous trouverez ». Ce qui est intéressant, parce que les Israéliens utilisent exactement la même terminologie. « Nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas de guerre, mais si jamais il faut qu'on y aille, nous serons à la hauteur ». Donc, on est en train de comprendre on est plus dans l'intimidation, dans le test mutuel, on voit grosso modo la vitesse de réaction, l'ampleur de réaction, mais du côté israélien, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections dans 15 jours. Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt à reprendre la stratégie de Shimon Peres de 96, qui avait été de lancer une grande guerre contre le Liban, et qui finalement, dont le résultat
la déroute
est de retourner contre lui. Exactement, ça s'était retourné contre lui en 96. Donc Benjamin Netanyahou n'a certainement pas intérêt à jouer la même stratégie. Et le Hezbollah a intérêt, bien évidemment, à ne pas multiplier les fronts. Il a déjà beaucoup de choses à faire en Syrie, même s'il avait les moyens de mener deux fronts en même temps. Pourquoi le faire si on peut l'éviter?
Voilà, d'où les tractations diplomatiques qui ont cours aujourd'hui, notamment de la part de l'Union européenne ou même de la France, pour contenir le Hezbollah, dissuader l'Iran de jeter de l'huile sur le feu et faire pression aussi sur Israël. Merci beaucoup Aurélie Daher d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Les éditions Radio France présentent le livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
Que dire de sa vie? Elle est la vie même, un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro.
Plongé dans l'itinéraire hors du commun de cet écrivain qui incarne le XVIIIe siècle et s'autorise toutes les libertés. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsenna, une coédition France Culture.
Bienvenue à ceux qui se réveillent sur France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
C'est votre humeur du jour à 6h57. L'information n'est pas une marchandise comme les autres.
Non Julie, c'est une marchandise pire que les autres, une marchandise plus compliquée que les autres. Je m'explique, le destin d'un kilo de pommes de terre est assez simple à décrire. Ou bien vous achetez le kilo de pommes de terre, ou bien vous ne l'achetez pas. Et si vous décidez de l'acheter, alors vous devrez payer le prix du kilo de pommes de terre. Alors j'ai récemment vu par exemple des pommes de terre à 10 euros les 10 kilos, et pour les acheter, bah, il faut les verser, non pas donner 20 centimes à celui qui a fabriqué le filet, 3 euros à l'agriculteur et 6 euros 80 à celui qui les revend. Si je vous dis ça, c'est que pour 10 kilos de BFM TV, les choses ne sont pas aussi claires. Alors supposons que vous voulez acheter 10 kilos de BFM TV. C'est une supposition, mais vous allez être sympa, vous allez dire que vous voulez.
Ah, tout à fait, je
merci
recherche.
Merci beaucoup, Julie. Donc, vous avez le problème suivant. À qui devez-vous les payer? À BFM, autrement dit au groupe Altice, ou bien au fournisseur d'accès qui vous permet indirectement de capter BFM, comme les plus de 18 millions de foyers français qui regardent BFM via une box Free ou Orange. Aujourd'hui, un désaccord sur le prix à payer entre Free et les chaînes du groupe Altice fait que vous ne pouvez plus regarder ces chaînes sur votre box Free. Un même désaccord pourrait conduire Orange à cesser la diffusion de BFM TV et consorts. Un dilemme assez cornélien pour le faire court, ces entreprises ne sont pas d'accord sur qui doit payer. Est-ce la chaîne qui bénéficie ainsi de la diffusion, ou bien le fournisseur d'accès qui peut ainsi proposer la diffusion de la chaîne parmi ses services? Ils sont en désaccord sur les sommes à régler, en conséquence de quoi cette diffusion pourrait cesser. Voilà une situation entièrement nouvelle, puisqu'elle signifie qu'une société tiers, en l'occurrence Free ou Orange, peut décider ou non de l'information qui transite sur son canal. On avait perdu l'habitude de cela depuis Internet, depuis la désintermédiation, depuis le moment où avec Internet, je pouvais décider de regarder ce que je voulais sans passer par un tiers distributeur. C'était oublier que le pouvoir d'Internet, c'est aussi le pouvoir du tuyau et que la neutralité du tuyau n'est pas neutre. En somme, avec Internet, l'information demeure une marchandise, mais on ne sait plus qui doit la payer.